Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit du monde d'où vous nous écoutez, puisque vous êtes 40% à nous écouter de l'étranger ou du moins hors de l'hexagone français. Cette émission est consacrée à la géographie, animée par Jean-Robert Pitt, géographe et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Jean-Robert Pitt, bonjour.
Bonjour madame.
Vous avez choisi de parler maintenant d'un sujet un peu surprenant, un arbre, le châtaignier, un arbre que vous avez traqué durant votre vie en Europe, au Japon, partout où il est.
Oui, il se trouve que de 1975 à 1986, j'ai passé une bonne dizaine d'années de ma vie à m'occuper de la géographie et de l'histoire du châtaignier. C'était le sujet de mon doctorat, de ma thèse de doctorat d'État que j'ai soutenue en 1986, qui a été publiée à ce moment-là. Et puis, depuis, les choses ont beaucoup changé parce que je considérais à la fin de ma thèse que le châtaignier avait eu des heures glorieuses, et je vais peut-être essayer de vous expliquer pourquoi, et qu'à la fin du XXe siècle, eh bien, il était en voie de disparition, ou du moins sa culture était en voie d'abandon parce qu'on n'avait plus besoin de châtaigne et plus guère besoin non plus du bois de châtaignier.
Alors, ce livre qui a été la publication de votre thèse, quel titre portait-il d'ailleurs ?
Alors, il portait un titre curieux tiré d'un texte de l'Antiquité évoquant un lointain pays où le châtaignier était planté du côté de la Thrace, au nord de la Grèce et de la Turquie, et qu'on appelait, d'un texte de Xénophon, les terres de Castanide. Et
très
j'avais
joli
baptisé,
titre.
Avec un sous-titre quand même plus explicite, Hommes et paysages du châtaignier de l'Antiquité à nos jours.
Alors, il faut dire que ce livre que vous aviez donc publié en 86 vient d'être réédité après 15 ans chez Fayard, parce que beaucoup de lecteurs vous le demandaient à l'éditeur.
Oui, alors d'abord, ça fait toujours plaisir qu'un livre d'érudition et une thèse soient publiés, parce que toutes ne le sont pas. Donc j'étais très, très heureux à l'époque, mais j'étais vraiment très, très surpris de voir que les éditions Fayard avaient souhaité le rééditer, parce qu'il y avait des demandes venues d'un peu partout en France, de gens français s'intéressant aux châtaigniers, de producteurs de châtaignes, de cultivateurs de châtaigniers, d'amoureux du châtaignier. Et donc ce livre vient de reparaître et les éditions Fayard m'ont demandé un petit texte pour dire un peu ce qui avait changé depuis 20 ans.
Il y a des choses qui ont changé, justement. Ah
ben,
voilà,
beaucoup de
c'est
choses.
Ça. Parce qu'il y a 20 ans, vous croyiez que le châtaignier allait disparaître.
J'étais très pessimiste il y a une vingtaine d'années, je dois le confesser humblement, là, auprès de tous les amoureux du châtaignier. Et je m'aperçois aujourd'hui que j'ai fait preuve à l'époque d'un pessimisme un peu exagéré dans ma conclusion. Quand je relis les phrases que j'ai écrites à cette époque, j'avais d'ailleurs été même dans d'autres régions que l'Europe, au Japon, où le châtaignier, là, au contraire, était en bonne santé et continue à être très, très apprécié. Et les châtaignes sont très consommées à l'automne. Mais en Europe, je trouvais que c'était terminé. Et je m'aperçois aujourd'hui que je dois revenir sur mes conclusions. Je vais peut-être, si vous me le permettez, vous expliquer comment j'en étais arrivé à ces conclusions. D'abord, ce que j'avais essayé de montrer dans cette thèse. Lorsque j'ai commencé à travailler, vers 75, toute la littérature concernant le châtaignier disait que c'était un arbre naturel dans certaines régions comme la Castagnie de Chacorse, les Cévennes, le Limousin, la Galice en Espagne, le Trajos Montes au Portugal, l'Apennin toscan, la région du sud du Vésuve en Italie, quelques secteurs de Sicile, quelques régions de Yougoslavie, etc., le Tessin. Donc tout le monde pensait que c'était un arbre poussant naturellement et que l'homme n'avait fait que l'utiliser à ses... Bon, pour ses besoins alimentaires et pour se nourrir à base de châtaigne, j'avais eu un petit doute à ce sujet. Et très rapidement, ça s'est passé, je crois, l'été 76, donc au tout début de mes recherches, je suis tombé, j'ai le souvenir précis de ce moment qui est quand même un peu comme les biologistes lorsqu'ils découvrent un virus, je découvre aux archives départementales de l'Ardèche un document qui était un cadastre très poussiéreux et en très mauvais état, datant du XVIIIe siècle, un grand plan, 2 mètres sur 1 mètre à peu près, sur lequel des parcelles étaient représentées. Et comme je m'intéressais un peu à l'histoire des cadastres, je regarde attentivement ce document qui n'était même pas coté, que personne ne connaissait. Et j'avais demandé à l'archiviste, est-ce qu'il y a des vieux plans ? Montrez-moi ça à tout hasard. Donc il m'avait sorti ça. Et sur ces parcelles, il y avait des mentions concernant les changements pour chacune des parcelles, de propriétaires et de nature de culture depuis le XVe siècle. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir de documents Compois, Terrier, documents notariaux disparu au XVIIIe siècle, mais qu'un notaire avait à l'époque sans doute un... Moi, je pense que c'était un chef-d'œuvre de jeune notaire. Il avait récupéré tout cela et puis noté sur chaque parcelle toutes ces mentions. Donc, les propriétaires ne m'intéressaient pas beaucoup. Ce qui m'intéressait, c'était la nature des cultures. Et je me suis aperçu qu'au XVe siècle, dans ce secteur qui est situé près d'Aubenas, en Ardèche, eh bien, il n'y avait à l'époque pas de châtaigniers, une ou deux parcelles dans lesquelles il y en avait, et tout le reste était marqué mention terre. Terre, ça veut dire terre labourable dans le langage de l'époque. Donc on y cultivait des céréales. Et les céréales dans cette moyenne montagne ardéchoise, c'était du seigle. On cultivait du seigle sûrement avec des petits rendements. Et à mesure que qu'on avance vers le XVIIIe siècle, donc 16e, 17e, 18e, on voit une mention apparaître, c'est terre et châtaigniers. Et puis après, châtaignier tout court.
Alors pourquoi on avait besoin du châtaignier ?
Eh bien parce que, et donc c'est là où ça m'a mis la puce à l'oreille, j'ai dit, bon, terre et châtaignier, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai compris après, en recoupant avec d'autres documents, que c'était des terres labourables sur lesquelles des paysans pauvres de cette région avaient planté des jeunes châtaigniers au milieu des terres labourables, comme dans un verger, un peu comme des pommiers dans une prairie normande. Puis, évidemment, au début, le châtaignier est tout petit, ne produit presque rien. Donc, on continue à cultiver du seigle. Puis après, le châtaignier grandit, grossit, son nombre s'étend. On ne peut plus passer non plus, on ne peut plus labourer, on ne peut plus cultiver le seigle. Donc, il n'y a plus que du châtaignier. Et à ce moment-là, c'est la mention châtaigneraie qui apparaît sur le cadastre. Eh bien, tout simplement, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce processus et ce changement de paysage en deux siècles et demi ? Parce que c'est la période, le 16e, le 17e siècle, de retour à la paix après la guerre de Cent Ans, d'augmentation de la population partout en France, de la fin des grandes pestes. Et donc, on a besoin de nourrir davantage de monde. Et on s'aperçoit, dans ces pays de montagne, à terre siliceuse, un peu ingrate pour les céréales, que les châtaigniers rapportent beaucoup plus de calories à l'hectare, beaucoup plus de nourriture que les céréales, compte tenu des moyens de l'époque, puisqu'on n'a pas d'engrais et qu'on n'a pas beaucoup de fumier. Donc, après bien des études, j'ai considéré qu'on pouvait nourrir avec le châtaignier, enfin, on pouvait obtenir 2 à 3 fois plus de calories à l'hectare. C'est-à-dire, donc, finalement, nourrir 2 à 3 fois plus de monde.
Mais on le mangeait sous quelle forme ? Alors, les châtaignes, ça ne pousse qu'une fois dans l'année ?
Non, les châtaignes, on peut les manger fraîches. À ce moment-là, on les fait griller, on les fait bouillir. Mais en Ardèche, on invente à cette époque-là, enfin, c'est une vieille pratique remontant à l'Antiquité, mais qui était très peu utilisée. On invente le séchage des châtaigniers, on construit des petits bâtiments qu'on appelle des clèdes, on fait sécher les châtaignes sur une claie, on fait un feu très, très fumeux, avec des herbes, des fougères, etc., au rez-de-chaussée. Puis la fumée sèche les châtaignes et on obtient donc des châtaignons, des petites châtaignes très, très dures, très, très, très sèches, qu'on peut conserver plusieurs mois jusqu'à l'automne suivant. On peut faire la soudure. Et ensuite, ça, on les réhydrate, on les met dans l'eau, puis on fait des soupes, des bouillies. Enfin, c'est pas d'un raffinement extrême comme type de nourriture.
De la farine aussi ?
De la farine, bien sûr. Et on fait des espèces de galettes parce qu'on ne peut pas faire de pain. La farine de châtaigne n'est pas sensible à levure et ne gonfle pas. Donc, on ne peut pas faire de pain. Mais on fait des bouillies, on fait quelque chose qui... Bon, dans d'autres régions, on a fait ça avec du maïs, on a fait la polenta. Parce qu'on ne peut pas faire de pain avec du maïs, on a fait la polenta qui est l'équivalent du pain des pays où le maïs est arrivé au XVIe siècle en provenance d'Amérique, comme par exemple dans la vallée du Pô. Et donc on voit, alors donc à partir de cet exemple de l'Ardèche qui a été pour moi une illumination, j'en ai encore de l'émotion en y repensant à cette découverte, parce qu'en fait sur le moment je n'ai pas pensé que ce serait un document important, et c'est après, au bout de quelques mois et quelques années, que je me suis aperçu que c'était le document clé. Et donc j'ai cherché à voir, à corroborer les enseignements de ce document et voir si on pouvait trouver les mêmes informations partout ailleurs. Et j'ai trouvé la même chose. Alors, parfois, le châtaignier arrive plus tôt. Par exemple, en Ligurie, en arrière de Gênes, dans la montagne Ligure, ça commence dès le XIVe siècle. Mais presque partout ailleurs en Europe, c'est le XVIe siècle. C'est la grande période d'expansion du châtaignier. Et en Corse, par exemple, ce sont les Génois qui imposent aux Corses, à partir du moment où ils sont propriétaires de l'île, où ils gèrent l'île, donc au XVIe siècle, de planter des châtaigniers. On oblige les Corses à planter 4 arbres par famille et par an, avec amende à ceux qui ne plantent pas et récompense à ceux qui dénoncent ceux qui ne plantent pas. C'est un bon moyen de changer les paysages.
C'est voilà. Énergique. Et alors, ceux qui plantent des châtaigniers, est-ce que ça porte un nom particulier, justement ?
Alors, bon, on les appelle castanéiculteurs dans le... Bon, ce n'est pas un mot de jargon, c'est un vrai mot français tiré du latin castanea, qui est le nom latin du châtaignier. Et si on poursuit l'histoire du châtaignier, donc tant que la révolution agricole n'est pas arrivée, tant que la pomme de terre n'est pas cultivé en grand parce qu'on s'en méfie beaucoup. Il faut attendre, je vous rappelle, Parmentier en France pour qu'on se décide enfin à planter en abondance des pommes de terre. Tant qu'on n'a pas réussi à supprimer les jachères par les plantes fourragères, tant que n'arrive pas l'exode rural qui, lui, intervient au moment de la révolution industrielle, donc vers 1850, dans les montagnes françaises, avec la découverte des mines de charbon, Saint-Étienne, le Creusot, etc., et puis après le Nord, la Lorraine, eh bien, les montagnes restent très peuplées. Il faut penser quand même que dans les Cévennes ou en Corse, on a vécu, dans les montagnes avec des pentes souvent très, très, très escarpées, jusqu'à 100 habitants au kilomètre carré, ce qui est énorme, sans céréales, sans autre production que la châtaigne. Il y a quand même des secteurs d'Europe où la châtaigne a été la base de l'alimentation. Il y avait en 1900 des Corses qui n'avaient jamais mangé un morceau de pain. Bon, on dit que Napoléon préférait les châtaignes des paysans de ses parents plutôt que le pain. Parce que, bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça se dit beaucoup. Mais en tout cas, on a vécu pendant 2 siècles ou 3 siècles dans certains secteurs, principalement à base de châtaignes. Et dans d'autres régions comme le Limousin, les châtaignes pour les pauvres, exclusivement ou avec autre chose, il y avait aussi d'autres cultures dans le Limousin. Le châtaignier n'a jamais été dominant dans le Limousin. C'était vraiment la nourriture des pauvres. Mais à partir de 1850... et dans certains secteurs déjà un peu avant, l'exode rural fait que la pression démographique diminue, la révolution agricole, la révolution des transports fait qu'on peut accéder à des céréales, etc. On peut se nourrir mieux, il y a moins de pression dans les montagnes, donc petit à petit, eh bien, on mange moins de châtaignes, et aussi parce que nous sommes dans une culture en Europe où le pain a beaucoup plus de valeur culturelle et fait beaucoup plus plaisir aux gens qu'une bouillie de châtaigne. Et c'est vrai qu'une bouillie de châtaigne, c'est quand même un petit peu étouffe chrétien.
Vous en avez mangé beaucoup. Vous en parlez tellement bien qu'on a l'impression que vous avez dégusté ça toute votre vie.
Oui, j'ai essayé tous les plats à base de châtaigne. J'en parle beaucoup, dans ma thèse. Je fais des cartes des plats à base de châtaigne. Il y a des plats très rustiques et vraiment étouffe chrétien et des mats fins. On appelait ça des mats fins. Mais il y a aussi des plats très raffinés. Il ne faut pas oublier quand même. Il y a un gâteau qui s'appelle le Mont Blanc, qui est un gâteau piémontais à l'origine, mais qu'on fait partout dans toute cette Europe, dans l'ancien empire austro-hongrois, en gros, qui est une purée de marron très sucrée, avec de la vanille parfois, puis de la crème chantilly, puis parfois on peut même mettre des pommes à la cannelle à l'intérieur, donc c'est absolument merveilleux ce Mont Blanc. Puis vous avez une autre délicatesse extraordinaire qui est le marron glacé. Marron glacé qui lui aussi est une invention italienne, mais que dans la production dans laquelle les Français sont devenus grands spécialistes, en particulier les Ardéchois, parce que au moment de l'effondrement du verre à soie, c'est une longue histoire, mais enfin, au moment de l'effondrement du verre à soie, de la production des mûriers et donc de l'élevage des verres à soie, eh bien, un moulineur de soie qui se trouvait à Privas, qui s'appelait Faugier, ne savait plus comment utiliser ses ouvrières, et donc qui savait, elle, manier des cocons très chauds, puisqu'on les faisait ramollir à la vapeur, et elle pouvait dévider le cocon en les touchant, ils étaient pratiquement à 100 degrés. Et donc il a eu l'idée de leur faire éplucher les marrons, et
d'où la marque
très chaud,
Faugier qui est née.
Et ensuite de faire des marrons glacés dans du sucre, et la marque Faugier est née de ça. Et comme vous savez, ce qui est merveilleux chez Faugier, c'est que les marrons glacés, ça se casse très facilement quand on les cuit, parce qu'il faut les cuire 7 ou 8 fois dans le sucre, à différentes températures. On en casse beaucoup, et avec ceux qui sont cassés, bien, on fait la crème de marron, qui est une des grandes spécialités de cette maison, mais aussi d'autres maisons ardéchoises. Donc ça, c'est une autre histoire. Donc il n'y a pas que des nourritures rustiques, il y a aussi des nourritures raffinées.
Voilà, ça c'était les quelques minutes gastronomiques de Jean-Robert Pitt, qui, outre être géographe, est aussi gastronome. Vous l'avez compris. Alors, continuons sur les soins du châtaignier.
Continuons donc. Le châtaignier est abandonné dans beaucoup de régions de France et d'Europe à partir du milieu du 19e siècle, parfois un peu plus tard. Et puis, il attrape des maladies. Mais on peut penser que s'il attrape des maladies, c'est parce que précisément, on ne s'en occupe plus, parce qu'on ne cherche pas à les soigner, parce qu'en fait, on a trouvé le remède à ces maladies. Mais voilà, on ne s'en occupe plus. Donc, c'est l'encre et le chancre. Je ne rentre pas dans le détail de ces deux maladies. Mais les châtaigneraies sont abandonnées. La friche repousse. Certains meurent. Et par exemple, ce fameux secteur de la région d'Aubenas qui s'appelle les Chaussadanches, correspondant au cadastre que j'avais découvert, je suis allé sur place au moment de ma thèse. On ne voyait plus aucune parcelle réellement plantée en châtaigniers cultivés. Il y avait des châtaigniers épars, mais soit dans de la broussaille, dans d'une espèce de maquis, soit arrachés et remplacés par des vignes ou par des cerisiers cultivés. Mais plus de châtaigniers cultivés. Et curieusement, alors tout change. Tout change. Aujourd'hui, la culture du châtaignier repart. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent aux châtaigniers, non pas parce qu'on a besoin de la châtaigne pour se nourrir, mais parce que c'est une nourriture identitaire et patrimoniale. Donc il y a aujourd'hui...
C'est le retour à la terre, au patrimoine, au terroir plutôt.
Oui, c'est ça. Alors, c'est avec tout un développement touristique autour du châtaignier, avec des musées, avec des productions artisanales locales qui sont des confitures ou des crèmes, qui sont bien sûr des marrons glacés, des boissons, des liqueurs. des gâteaux de toutes sortes. Et donc, on voit très curieusement, en Ardèche, dans les Cévennes, même en Limousin, dans la châtaigneraie cantalienne, en Italie, partout, des fêtes du châtaignier, des musées s'ouvrir, des artisans se remettre à inventer des produits, et puis des paysans qui, dans le cadre d'exploitations souvent de polyculture, replantent des châtaigniers. Et il y a donc des pépiniéristes qui soignent leurs châtaigniers malades et qui, ça donne un paysage absolument merveilleux parce qu'une châtaigneraie bien entretenue, c'est particulièrement beau, on peut s'y promener.
Parce que dessous, c'est propre, non ?
Dessous, normalement, ça doit être propre, sinon ça n'est pas bien entretenu. Mmh. Donc on peut en plus y élever du bétail, on peut y mettre des chèvres ou des moutons, si l'on veut. On peut y trouver des cèpes à l'automne, ce qui n'est pas désagréable. Donc il y a toutes sortes d'avantages et ça fait... Aujourd'hui, les gens, ils sont très, très attachés. J'avais eu un petit peu la puce à l'oreille vers 1995. J'avais été invité à un congrès de producteurs de châtaignes au Vence, en Ardèche. Et j'avais été surpris de... j'y avais été avec grand plaisir, ils m'avaient invité à expliquer un peu ce que je disais dans ma thèse. Et je trouve 500 personnes rassemblées au Vence, en Ardèche. Et puis, le ministre de l'Agriculture s'était déplacé pour ça. Donc, ça m'avait mis la puce à l'oreille.
Mais
après, j'en avais plus beaucoup entendu parler. Puis alors là, les choses redémarrent très fort. Il y aura, pour la première fois depuis un demi-siècle, pratiquement, parce qu'il y en avait eu au moment de la Seconde Guerre mondiale, et puis ça s'est terminé complètement, un congrès international de castanéiculteurs qui se tient en octobre prochain à Cuneo, en français, dans le Piémont, en Italie, où il y aura des producteurs de toute l'Europe et sans doute des producteurs chinois, japonais, coréens, puisque les grandes régions de production dans le monde sont en Extrême-Orient. Ce n'est pas tout à fait le même châtaignier, mais il y a énormément... Au Japon, par exemple, il y a des centaines de préparations à base de châtaignes et les Japonais n'imaginent pas de passer l'automne sans manger un certain nombre de fois des châtaignes. Par exemple, une chose très curieuse, on fait cuire des châtaignes épluchées à cru dans du riz. Au milieu du riz. Et ça donne un goût très agréable au riz. Et les châtaignes sont très moelleuses, cuites comme ça dans le riz. Donc il y a toutes sortes de préparations à base de châtaignes. C'est donc vraiment une nourriture identitaire de l'automne dans ces régions du monde où on est très attaché à manger selon la saison, à manger en accord avec son environnement. Et au Japon, la châtaigne, c'est une nourriture qui fait vibrer de bonheur tous les Japonais.
Eh bien, merci Jean-Robert Pitt. Vous nous avez fait vibrer d'intérêt et de bonheur aussi. On a salivé en vous écoutant. Voilà pour la châtaigne. À bientôt pour une autre émission.
À bientôt.